Morgan.
Ardigan présente Un monde à refaire de Claire Deya, lu par Frédéric Garbe. À Aurélie et Guillaume, à toi, sans qui rien n'aurait été possible, à vous, ma constellation. S'il retrouvait Ariane, Vincent n'oserait plus caresser sa peau. Ses mains avaient atteint des proportions qu'il ne reconnaissait pas. Dures, les doigts gonflés, leur enveloppe épaisse, rugueuse et sèche, elles s'étaient métamorphosées. La corne qui les recouvrait était si aride que même lorsqu'il les lavait longuement, soigneusement, elle ne s'attendrissait pas. Il restait toujours une constellation de fissures noires qui s'enfonçaient profondément dans l'écorce de ses paumes, de ses phalanges. La terre les avait tatouées de son empreinte indélébile, en s'infiltrant dans les gerçures et les crevasses qu'avaient entaillées deux hivers en Allemagne. Avant la guerre, quand il parlait, ses mains dansaient. Ariane s'en amusait et l'imitait. Il la revoyait, là, sur cette plage de la Riviera qui lui faisait face. La première fois qu'il s'y était baigné, le soleil se levait à peine. Ils étaient encore étourdis d'avoir partagé leur première nuit ensemble. Ariane devait rentrer tôt chez elle, pour que personne ne se rende compte de son absence. Ils étaient passés devant la plage. Ils avaient alors été saisis par l'impulsion irrésistible de prolonger leur nuit dans la mer. En face, le soleil se reflétait sur les îles d'or. Ils se souvenaient du maillot de bain qu'elle s'était confectionné, en nouant avec des gestes de danseuse audacieuse un foulard autour de ses seins. Ses cris en entrant dans la mer, sa façon de projeter son corps contre le sien, électrisé par l'eau glacée et le soleil levant. Ce corps salé, son désir iodé, la soie mouillée plaquée sur sa peau, il aurait tout donné pour revivre cette insouciance et replonger dans cet amour. Il resserra autour de son cou le foulard qu'il lui avait volé. Il s'était évadé pour retrouver Ariane. Elle avait disparu. Plus personne n'avait entendu parler d'elle depuis 2 ans, mais il la chercherait partout. Il ne pouvait pas croire qu'elle était morte. Impossible. Elle ne lui aurait jamais fait ça. Et puis, lorsqu'il était prisonnier, il avait reçu ces lettres énigmatiques. Maintenant que le Sud avait été libéré des Allemands, tout allait être plus facile. Ils n'avaient pas encore capitulé, mais on disait qu'ils étaient foutus. Il avait une idée pour retrouver Ariane. Cette idée, ténue, il l'exagérait pour se rassurer. Mais la vérité, c'est qu'il s'accrochait plutôt à une vague intuition pour ne pas sombrer. Il était seul, démuni. Et ce n'est pas le revolver qu'il cachait sur lui comme un talisman qui allait changer quelque chose. Tandis que le reste de la ville se préparait à sa première grande fête depuis la guerre, en face de lui, en contrebas, la plage était dévastée. Des tranchées, des barbelés entravaient l'accès à la mer. Des pancartes interdisaient de s'approcher, rappelaient le danger. Un danger de mort. Tout le long de la Côte d'Azur, les plages étaient minées. Vincent entendait au loin les répétitions d'un orchestre amateur qui tentait quelques incursions dans de désinvoltes morceaux de jazz. Il faisait beau. Les gens autour de lui souriaient, ne pensaient qu'à l'été qui s'annonçait. C'était presque la fin de la guerre. Et pour lui, sans doute, le début d'un enfer en solitaire. De l'autre côté du parapet où se tenait Vincent, une douzaine d'hommes se déployaient sur la plage et progressaient côte à côte, lentement, silencieusement. Armés d'une simple baïonnette, ils auscultaient le sable du bout de leur pic de métal pour détecter les mines enfouies par les Allemands. Fabien marchait à pas prudent, concentré, et chacun des hommes qui avançait en ligne à ses côtés calait son pas sur le sien. L'homme n'avait pas 30 ans. Mais il était devenu tout naturellement le chef du groupe. Son autorité fraternelle, sa formation d'ingénieur, son engagement du maquis à la résistance. Après avoir fait sauter tant de trains, il était considéré comme le spécialiste incontesté des explosifs.